Alléluia. Je t'aime. Nous sommes rassemblés ici pour ce thème. Être libéré du joug des liens familiaux et ancestraux. Comprendre, discerner et traiter. Être libéré. Je vais attirer votre attention sur ce mot. Beaucoup de gens peuvent lire le thème et se dire « Waouh, ma délivrance !» Oui, c'est votre délivrance. Mais Père, aujourd'hui, veut nous parler d'autre chose. Le Saint-Esprit veut nous amener dans une réflexion plus profonde. Il parle de liberté. Il nous dit « Soyez libérés. » Libérés du lien de joug. Alléluia. Je dis bien libéré, pas délivré. Pourquoi? Parce que nous sommes délivrés. Parce que nous sommes tous délivrés. Toute la création est délivrée par notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Il est mort pour nous à la croix. Il a donné sa vie pour notre délivrance. Nous sommes délivrés. Il n'y a que lui qui délivre. Alléluia. Et nous sommes tous délivrés. Cette délivrance est générale. Il n'y a pas un homme sur la terre qui ne soit pas délivré. Parce que la délivrance de Christ à la croix, ce n'est pas pour les chrétiens seulement. Ce n'est pas pour ceux qui ont seulement cru en lui. Les hommes saisissent l'opportunité et croient en lui pour passer à une autre étape de leur vie. Il y a ceux qui ne, pour des raisons ou d'autres, ignorent qu'ils sont délivrés parce qu'ils n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle. Mais il y a surtout ceux qui ont même entendu la bonne nouvelle, mais qui l'ont rejetée, qui ne l'ont pas acceptée, qui ne l'ont pas retenue, qui ont dit « plus tard, j'arrive ». Pour toutes ces raisons-là, il n'en est pas moins que la délivrance est disponible à la croix. Elle est réelle et elle est effective. Donc, moi j'ai envie de vous dire, et ça c'est l'esprit m'a rassuré dessus, ne parlez plus de délivrance. Pourquoi malgré le fait que même ceux qui ont cru en Christ, qui sont appelés enfants de Dieu, crient toujours pour leur délivrance? Soit ils n'ont pas compris, soit ils sont encore sous les effets des chaînes, pourtant que j'ai brisé. Des prisons que j'ai ouvertes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore libérés. Parce qu'ils ne se sont pas encore libérés. Donc nous parlerons de liberté et pas de délivrance. Parce qu'à compter d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, enfant de Dieu, tu es délivré, tu es délivré, tu es délivré, tu es délivré. Vous êtes tous délivrés, nous sommes tous délivrés, je suis délivré. Alléluia. Amen. Que même celui qui passe dans la rue, même l'athée, celui qui ne croit pas, sachez qu'il est délivré. Amen. Parce que cette croix, la mort à la croix, ce n'était pas seulement pour quelques-uns. La mort à la croix, l'éternel Dieu l'a programmé de longue date afin de racheter sa création. Sa création. Toute sa création. Sans demander la vie de l'un ou de l'autre. Alléluia. Maintenant, gloire à Dieu pour celui qui saisit l'opportunité, comprend et possède sa délivrance. Ou marche dans sa délivrance. Même si ce n'est pas, le ressenti n'est pas complet, il est conscient. Alléluia. Ça, c'est une chose. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut que nous abordions, que nous opérons dans notre liberté. Même ceux qui sont en Christ continuent de gémir de supplier, de pleurer les effets de tous les liens sur leur vie. Aujourd'hui, il n'est pas lieu de traiter tous les problèmes qu'on peut avoir en tant qu'humain, même chrétien. Mais le Père veut aujourd'hui que nous upgradons, que nous obtenons une liberté de l'influence de ces liens familiaux et ancestraux sur nos vies. Amen. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira, nous dit la parole de Dieu. Dans le livre de Jean. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et Jean nous reprécise encore. Si c'est Christ qui vous affranchit, vous serez réellement affranchis. L'affranchissement, c'est une liberté légale. L'affranchissement, c'est une liberté légale. Être affranchi, c'est être libéré légalement. Écoutez, je veux vous prendre un exemple. Quand on dit qu'on est libre et tout, c'est qu'on a la latitude de faire ce qu'on veut, d'aller où on veut, etc. L'esprit m'a inspiré le cas d'un prisonnier. D'un prisonnier jugé coupable. On l'a pris, on l'a jugé, on l'a mis en prison. Deux cas. Pour obtenir sa liberté, le premier, il s'évade. Il réussit à s'évader. Il est dehors, non? Il n'est plus en prison. Plus ou moins, il vit. Il y en a même qui s'évadent, on ne les retrouve jamais. Mais il y a une chose par rapport à cette liberté qu'il a. Quiconque reconnaît son visage, parce qu'on l'a mis à la télé, etc., même un petit enfant, écrit à un policier, le voilà, on va l'arrêter et le ramener en prison. Sa liberté est contestable, contestée par tous et remise en question. Est-ce qu'il est libre? Il est peut-être libre parce qu'il est dehors, mais il n'est pas affranchi. Le deuxième cas de prisonnier, c'est celui qui avait fauté. On l'a jugé, on l'a mis en prison. Il a fait son temps de prison. Pour une raison ou pour une autre, peu importe. Il a même obtenu une remise de peine. Mais on lui a signé sa remise de peine et on a donné son ordre de libération. Il est sorti de prison libre. Il devait passer 20 ans, il n'a passé que 10 ans. Mais il a eu sa remise de peine et il est sorti de prison. Il marche gaillardement. Il rentre chez lui. Il vit au milieu des uns et des autres. Cette liberté peut être contestée parce que ça fait mal au cœur des victimes de ce qu'il a fait. Ça fait mal au cœur de ceux qui ont pris pour dire que mais c'est quoi, pourquoi il est dehors, etc. On voit ça tout le temps. On voit des personnes qui ont violé des enfants, qui ont tué et tout. À un moment, ils sortent de prison. Dans la famille qui a perdu l'enfant ou bien dans la personne, ça fait mal encore. Mais si tu vas au commissariat dire pourquoi il est dehors, le policier va te regarder comme ça pour dire parce qu'il est autorisé à sortir. Et pourquoi? Parce que sa liberté a le sceau de la légalité. Sa liberté a le sceau de la loi. Elle est incontestable. Non, pardon. Elle peut être contestée, mais elle ne peut pas être remise en question. Voilà ce que le Seigneur Jésus veut nous faire comprendre. Quand c'est lui qui a franchi, personne ne peut remettre ça en question. Alléluia. Quand c'est lui qui a franchi, personne ne peut remettre ça en question. Parce qu'il offre une liberté légale. Parce que tout dans le royaume du Père, c'est une question de justice. Tout est loi. ce qui nous concerne, toute notre vie, toute la création, c'est une question de loi. Une loi qui opère, une loi qu'on abroge, une loi, c'est une question de loi. Nous vivons sous des lois. Même les lois que nous-mêmes nous posons, les lois que tout le monde, tout est une question de loi. Le monde n'a pas inventé. Tout est une inspiration du mode de divin de la création. Alléluia. Tout est une question de loi. Et dis-tu, mon frère, ma soeur, tu vis sous une question de loi. Donc tu dois être aguerri à la loi de Dieu. Quand je dis ça, certains peuvent dire, mais attends, pourquoi on parle encore de loi? Nous sommes sous la grâce, nous sommes sous la grâce. Je ne dis pas non. On est sous la grâce de Christ. On est sous la grâce de Jésus. Mais, avance. Mais, savez-vous que pour bénéficier de cette loi, Jésus a, pour bénéficier de cette grâce, Jésus a bravé une loi. Hein? Une loi contre une loi. On était sous. On était sous le joug de la loi du péché et de la mort. Jésus, par sa mort, a mis en action une autre loi qui est venue prendre autorité sur cette loi-ci. Toutes ces sont les lois de Dieu. Paul nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Mais la grâce, c'est une question de loi. Nous sommes bénéficiaires de cette grâce, mais ça ne nous absout pas. Que tout ce qui nous dirige, c'est une loi. Alléluia. Dans le royaume de Père, tout est loi, ordonnance, décret, règle, précepte, etc. C'est-à-dire qu'il y a une grande loi, ensuite il y a des décrets d'application de la loi. La loi de la vie, comme ça nous a donné la vie et la mort, voilà les décrets qui viennent après. Maintenant, ils partagent. À ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Ce sont des décrets d'application de toutes ces petites lois. Si tu obéis à mes commandements, si tu, etc. Ce sont des conditionnalités de la loi. C'est pareil, nous sommes dans un monde régi par les lois. Dites-moi une seule chose dans ce monde que nous sommes amenés à faire qui n'a pas son code particulier. Est-ce que ça existe? Tu vas travailler à le code de travail. Tu vas à l'hôpital à le code de la santé. Tu marches dans la rue à le code d'état. Tu veux marier à le code d'état civil. Tout est loi. Et c'est important. Dieu veut nous parler de loi aujourd'hui. Alléluia. Dieu nous dit une chose et il ne fait pas de tri. Quand il vous dit, cherchez premièrement le royaume, entre parenthèses, le royaume qu'établit Christ, Jésus-Christ mon Fils. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il n'a pas dit cherchez premièrement le royaume et secondairement ma justice. Non. Cherchez le royaume, c'est-à-dire profiter de la grâce de Jésus. Entrez dans le royaume que je l'ai envoyé bâtir pour vous accueillir. Joignez à ça ma justice. Joignez à ça ma justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire que vous pouvez trouver tout, posséder tout dans la justice de Dieu. Amen. Alléluia. Moi, j'ai constaté une chose en étudiant la parole de Dieu. Dieu a trois temps. Trois temps pour posséder, trois temps de victoire. Beaucoup de choses évoluent en trois temps. En ce qui concerne le thème que nous allons, que nous sommes en train d'étudier, il y a deux versets particulièrement qui sont des versets que la Bible nous présente comme les lois de Dieu pour le succès. C'est-à-dire pour réussir ce que nous voulons entreprendre, pour obtenir la victoire dans ce que nous voulons entreprendre. Alléluia. Le premier, c'est dans Deutéronome. Moi, je dis toujours l'Ancien Testament, c'est lui qui explique la pensée de Dieu. Alléluia. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique, obéissance, observance, mise en pratique, tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur les nations. Quand il dit ça, il a tout dit. Mais tu as trois choses à faire. Alléluia. Tu as trois étapes à franchir. Le deuxième. Il a dit à Josué, à qui il avait donné la responsabilité de la conquête et de la mise en place de son programme. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Deux. Agis fidèlement. Ça ressemble exactement. Alors, agir fidèlement, c'est mettre en pratique. Médite-le jour et nuit. C'est observe. Et que ça ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est lire la parole. C'est obéir. Et de la connaissance. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, en ce qui concerne le joug des liens familiaux, je vous invite, pour entrer dans le succès, à comprendre, à discerner et à traiter. La clé de votre liberté, la clé de votre liberté, de votre affranchissement, comprendre, discerner, traiter. Amen.
Amen.
Comprendre quoi? Éternel Dieu nous amène à comprendre quoi? C'est tout? C'était le thème en fait. Peu importe. Il nous appelle à comprendre la notion du joug. Parce que il y a aussi une chose qui caractérise les enfants de Dieu. Je ne veux pas parler de ceux du monde. Vraiment, ceux qui sont venus ici, c'est parce qu'ils croient, comme le frère Brice l'a dit, que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de toutes choses. Donc, c'est en son nom que nous parlons ici. Donc, ne parlons pas. Je dis même, les enfants de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, sont superficiels quand ils font des choses. Ne rentrent pas dans la compréhension des mots. On utilise un mot, même si dans des contextes différents, et on est étonné en fait que ces mots ont perdu de leur puissance. Nous allons essayer de comprendre de quoi nous parlons ici. Parce que beaucoup de gens parlent des jougs, beaucoup de gens parlent des jougs, des liens, etc. Mais de quoi il s'agit? Quand nous parlons de famille, nous parlons des anciens, nous parlons des jougs, nous parlons des liens. Il s'agit de quoi? Comprendre. Saint-Esprit de Dieu, je prie vraiment pour que tu nous inondes de ton esprit de sagesse et de révélation. Alléluia. Ouvre notre entendement. Que ma bouche soit qu'un instrument. Utilise-le. Parle au peuple de Dieu assis ici. Dispose leur cœur, dispose leur esprit à saisir ce que tu veux qu'ils comprennent. Alléluia. Quelqu'un écrivait dans le livre que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu va lui dire. Vraiment, je prie pour que ce soit notre lot aujourd'hui. Que nous saisissons ça parce que c'est la clé de notre liberté. Alléluia. Nous savons que la parole de Dieu, c'est de la nourriture. Il l'a dit à Josué, qu'elle ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'elle ne s'éloigne point de ta bouche. Ça dit, tu vas la manger. Jean nous dit que la parole s'est fait chair La parole est de ça. Elle a besoin d'être digérée, que c'est une bonne nourriture, la Bible nous enseigne. Nous nous nourrissons de cela. Mais il y a une nourriture adaptée à chaque situation. Il y a une nourriture appropriée à chaque cas. Donc comprenons la notion du joug. Quand on parle de joug, des liens, des chaînes, des nœuds, des oppressions, de la captivité, de la contrariété, de tout ce qui peut être généré par moi. Ce sont des entraves. Tout cela vient juste nous entraver, c'est-à-dire nous empêcher d'aller librement, facilement, aisément vers là où nous voulons. Ça nous limite et surtout, les jougs soumettent les gens. Il y a un lien de soumission dans une joug. Tu es soumis à quelque chose. Si on prend le cas de... Ah là là, mon Dieu. Si on prend le cas d'une bête de somme qu'on a entravée avec un joug, on le lit de façon à ce que ses jambes, ses bras, etc. ne puissent aller que dans la direction qu'oriente le maître. C'est à l'image de cette bête qu'on force à un travail que vient même vraiment le terme de joug. Mais parce que dans la Bible aussi, on mettait des gens sous les jougs pour les obliger. Pas seulement pour les emprisonner, mais pour les obliger à faire ce que l'on voulait qu'on fasse. Ces entraves-là viennent nous empêcher. Il faut comprendre une chose. Quelqu'un qui est sous le joug, s'il ne se révolte pas de son joug, il demeurera sous le joug. Mais pour se révolter du joug, il faut prendre conscience qu'on est limité. Il faut prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut prendre conscience qu'on est dans une espèce de soumission. Mais il y a beaucoup de gens qui prennent même pas, qui ne se rendent pas compte de cette soumission. Nous revenons sur les liens familiaux, sur les... Voilà. Nous allons étudier le contexte de la famille. Mais il y a une chose qui est importante. L'Esprit de Dieu m'a dit, prends le cas de Lazare. Lazare, l'ami de Jésus, qui est mort et qui l'a ressuscité. Nous allons voir quelque chose. On n'a peut-être pas le temps de lire tout le livre, ce livre-là, qui nous relate cette histoire. Mais ceux qui lisent la Bible savent que Marie et Marthe et Lazare étaient des amis. Étaient des amis de Jésus. Quand il était malade et qu'il allait vraiment, cette situation était inquiétante, elles ont envoyé dire à Jésus, ton ami est malade. Quand on a le privilège même de pouvoir parler à Jésus, je dis, Jésus n'était pas encore mort à la croix, mais Marie, Marthe, avait déjà le privilège d'aller le dépêcher de là où il était pour venir. C'est ce privilège que nous avons aujourd'hui, en étant en Jésus-Christ. Il nous a donné la capacité de l'interpeller. Alléluia. C'était le privilège qu'avait Marie et Marthe. Jésus-Christ leur a dit, j'arrive. Et que cette maladie n'était pas pour la mort. Il est venu 2 jours après. Lui, il savait que ce n'était pas pour la mort. Mais voilà comment s'est comporté les gens dans la famille de Lazare. Sa famille, pas d'autre. Il ne respire plus, il est mort. Celui qu'on allait appeler parce qu'on pensait qu'il était capable de faire tout, nous a dit qu'il arrivait. Mais bon, on n'a jamais mis ça de côté. On a pris Lazare, on va donc appliquer sur Lazare nos coutumes, nos règles, nos principes. On va l'embaumer, On va l'emballer et on va l'enterrer. Quand Jésus arrive, on court pour aller lui dire, oh, c'est déjà trop tard, il est mort. Jésus lui dit, pour vous, peut-être pas pour moi. Nous connaissons la suite. Il entre et il dit, Lazare, sort. Lazare s'est levé, s'est retiré, il est sorti. Ma question est celle-ci. Quand Lazare va, est-ce que c'est Jésus qui a enlevé les liens sur Lazare? Quand Jésus a fini de le lever, de le faire sortir, tout ce qu'il a dit aux autres, c'est délier-le. Je sais qu'on utilise ce verset pour prêcher souvent dans un certain sens comme quoi les gens ont besoin, qu'on les aide, les gens ont besoin et chaque jour les gens sont derrière d'autres personnes pour qu'on les délivre. Le Seigneur m'envoie vous dire aujourd'hui, l'Esprit de Dieu clarifie quelque chose aujourd'hui. Il dit délier-le, c'est-à-dire vous de la famille, des frères, des sœurs, des parents, qui avez estimé que moi, ma parole que j'ai donnée là, que j'arrive, ça ne suffisait pas. Vous avez pensé que vous allez appliquer vos coutumes, appliquer vos machins, etc., enterrer et tout. Il est là devant vous. Déliez-le. Ôtez ces choses que vous avez vous-même mis sur lui. Si ça relevait de Christ, Lazare serait sorti nickel, sans rien. Mais enlevez. Enlevez vos bandages. Enlevez vous-même vos entraves que vous avez mis sur Lazare. Supposons que toute la famille avait dit on n'enlève pas. D'accord? Lazare, ressuscité, vivant, vous pensez qu'il allait faire quoi? Il allait se débrouiller pour enlever ça. Il allait se débrouiller parce que la suite ne nous dit même pas si les gens ont enlevé ou pas. Mais Lazare, tu marches, tu es là, tu es bandé. On a dit délier-le. Personne ne veut délier. Tu vas rester là. Reste. Reste avec ton joug, reste avec tes entraves, reste avec tes liens, reste avec tout ça. Il allait trouver le moyen de faire bouger son petit doigt là pour commencer à faire un petit trou. Ceci pour dire quoi? Et je vais vous dire que quand ils ont mis Lazare comme ça, c'était par amour, hein? Par amour filial. Ils faisaient les choses qu'ils avaient l'habitude de faire. Ils jouaient un rôle. Ouais, Lazare, il est mort. Il ne va pas rester comme ça. On va l'enterrer dignement, notre Lazare bien-aimé. On va l'emballer comme il faut, avec des huiles correctes et tout. On va l'enterrer, on va rester autour de lui. On va pleurer, pleurer, pleurer. Jésus vous a dit, je viens. Pleurer. Enterrer. Ils le font par amour, c'est pas par méchanceté. Hein. Les liens familiaux, là, c'est pas... Vous allez comprendre dans le contexte de la famille. Donc, il y a des situations, si tu ne te révoltes pas contre tes liens, parce que Jésus-Christ était venu mettre le verdict de la loi, tu es ressuscité. Tu as vaincu la mort. C'est tout. Le reste, allez gérer ça. C'est les hommes qui font ça. Allez enlever. Mais il y a une chose. Les gens ont même enlevé les bandages sur Lazare. Vous pensez sincèrement que l'embaumement, tout ce qu'on a fait sur lui là, on a bandé, il est resté 4 jours. Ça va rester sans séquelles? Dites-moi. On va enlever les bandages. Sa peau ne sera pas atteinte. Revenons sur un autre cas. Quand on prend quelqu'un, j'ai voulu construire un harnais. Imaginons des chaînes qui emballent quelqu'un partout. Nous aimons chanter, Jésus brise les chaînes. Oui, il les brise. Il les a brisées à la croix. Ces chaînes sont brisées. Elles sont même tombées. Mais imagine, je suis debout. On m'a entravé de chaînes, d'accord? pour défaire une chaîne, il faut défaire un maillon. Un. Supposons qu'il a même défait même 10 maillons. Les chaînes sont tombées propres. Dans les cas où il n'y a pas les nœuds, peut-être sur ta main, ainsi de suite. Ça tombe. Mais ça tombe où? Les chaînes tombent. Ils tombent où? Ils tombent à tes pieds. Si tu ne fais pas ça, tu vas rester sur les chaînes. Tu vas marcher comme ça. Alors qu'on a coupé tes chaînes. C'est pareil pour les liens. C'est pareil pour les nœuds. Donc, Jésus a brisé. Prenons ça comme acquis. C'est notre richesse. Il a brisé à la croix. Enlevons-nous même les liens là. Libérons-nous de ça. Comment? Deuxième notion qu'il faut comprendre, c'est le contexte de la famille et les ancêtres. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit des liens familiaux, on parle sorcellerie, ma tante est sorcière, mon père, grand-père est sorcier, il est machin. Je ne parle pas de sorcellerie. Aujourd'hui, vraiment, nous n'allons pas parler de sorcellerie. Le Seigneur s'adresse à chacun de ses enfants, délivrés à la croix du calvaire par lui-même. Amen. Donc, qu'est-ce que la famille, les ancêtres? Les ancêtres, ça veut dire premier. Donc, on prend la famille, ta famille, depuis le commencement. Si on nous prend en tant qu'humains, c'est depuis Adam et Ève. Mais, toute famille est un groupe qui est régi, c'est-à-dire qui est bénéficiaire du même héritage. C'est ça une famille. Dieu a fait cette famille et a distribué. Nous pouvons voir dans la... Parce que Dieu fonctionne comme ça. Même pour se manifester au milieu des hommes, il était parti avec Adam et Ève pour établir une famille. Mais avant toute chose, il a déposé un héritage. Lorsque tout s'est gâté et qu'il a fait le déluge, quand il est revenu et qu'il s'est suscité un homme en la personne d'Abraham, la première chose qu'il a promis à Abraham, c'est quoi? L'héritage de la postérité. Dieu fonctionne comme ça. Et cet héritage s'est transmis, s'est retransmis, etc. À Isaac, à Jacob. Au niveau de Jacob, il a eu plein d'enfants, 18 tribus. Le problème de la répartition s'est posé d'arrêt là, immédiatement. Il a fallu donner la part de, donner la part de. Et en même temps, établir les lois. Parce que, pour pouvoir gérer ça, si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que on parle d'héritage. La tribu de ceci. Nos filles, si elles vont se marier dans une autre tribu, elles n'auront rien. Parce qu'elles vont diminuer notre héritage au profit de la voisine, etc., etc. Tout dans la famille est tenu. C'est une question de héritage et c'est une question de transmission. Un héritage de toute forme, que ce soit matériel, immatériel, de génome, des gènes, tout ce qui peut être transmis, de richesse, tout ce que vous voulez, spirituellement comme physiquement. Tout est une question d'héritage et tout est une question de transmission. Qu'est-ce que tu transmets à tes enfants? Qu'est-ce que tes parents te transmettent? Lorsque les parents raisonnent, parce que Dieu raisonne comme ça, ils raisonnent transmission. Ils raisonnent héritage et eux, ils sont dans la protection d'un héritage. L'héritage du bon pays pour le peuple avec Moïse et les lois qui vont avec. L'héritage du monde à Abraham. Même l'héritage du royaume de Dieu en Jésus-Christ. Et comme Jésus vient et nous amène dans son propre co-héritage. Pourquoi la Bible parle beaucoup d'héritage? Parce que Dieu veut fonctionner dans les liens familiaux. Et dans ces liens familiaux, il sait qu'il assure, il perpétue une descendance. Mais il y a ce problème d'héritage et les lois qui accompagnent ce problème d'héritage. Le problème, c'est que Dieu le fait par amour et Dieu le fait parfaitement. Mais les hommes, ils mêlent leur convoitise. Les hommes, ils mêlent leur cupidité. Ça devient Je veux posséder plus. Je veux être plus riche que mon voisin. Je veux être chef du village. Je veux que mes enfants soient plus brillants que tout le monde. Je veux que... Et ils entrent dans des choses incongrues. Le voisin est jaloux de nous. Je blinde mes enfants. Voilà les scarifications qui ont commencé. Je veux protéger notre territoire. Mon fils tel ou mon fils tel, il sera gardien de cet héritage. Te voilà, tu es déjà entré dans le truc. Je veux avoir la notoriété. Te voilà, tu es déjà prêt. Je veux avoir la puissance. Te voilà déjà dans les totémiques. C'est une question d'asseoir et de protéger ton héritage que tu vas transmettre à tes enfants. C'est une question de convoitise. Et toutes ces choses-là ont un revers. S'il y a un revers, tu rentres, tu acceptes, on te prend pour être gardien du territoire familial. Ça veut dire que tu restes là, le gardien ne bouge pas. Tu es gardien, tu vas où? Quand tu grandis, tu vas aller faire les études en Europe, rien ne marche. Personne ne donne le visa. Tu es étonné. Tu es gardien. Tu es gardien du territoire. Il y a beaucoup de choses comme ça. On ne va pas rentrer dans tous ces détails, mais on sait, tout le monde sait quelles sont ces conséquences des liens. Mais au bout, les parents ne sont pas toujours mauvais. Ils ont la cupidité humaine et ils ont la vision humaine des choses. Mais les conséquences sont celles que nous connaissons. Surtout quand nous passons en Christ. Les enfants qui veulent entrer dans cet héritage de leur famille, ils n'ont pas de problème. Dès qu'on dit à une chaise à soi, ils courent. On dit, tu vois, ils courent. Non, il n'y a pas de problème. Ne te plains pas. Prends tout et assume. Ça, c'est une question d'héritage. La troisième notion, c'est la notion d'autorité déléguée. Pourquoi est-ce que ces liens sont si compliqués à se défaire? Pourquoi ça ne marche pas? Tu peux prier, jeûner. Les super onctionnés viennent même taper ta tête. Ces liens-là ne bougent pas. C'est une question d'autorité. Parce que l'autorité divine est déléguée aux parents pour les enfants. C'est une loi. On n'a jamais vu en Dieu ou quelque part un enfant qui devait avoir autorité sur son père. Quand la parole de Dieu nous dit respecter les autorités, priez pour les autorités, que ce soit l'autorité d'un gouvernant sur un gouverné, l'autorité d'un patron sur un employé, l'autorité, c'est indéfectible. L'Éternel l'a établi comme ça. Le problème de ces autorités, c'est que l'homme vit ça avec beaucoup d'émotions. On va se dire, mais alors, si cette autorité est si, est une loi, c'est légal. Il a le droit de te transmettre quelque chose. Il a le droit de te garder un héritage. Il a le droit de te dire, viens participer à l'héritage. Mais le problème avec les hommes, c'est que justement, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, fait que souvent c'est pesant pour l'enfant. Souvent ça entraîne l'enfant dans des choses que lui plus grand, il ne veut pas forcément sur sa vie. Comment donc se soustraire de cette autorité? Comment se soustraire de cette autorité? On va se demander. Là, j'ai envie de demander, avant de poursuivre, quelle loi parle dans ta vie? Quelle loi parle dans ta vie? Parce qu'il te faut une stratégie pour t'en défaire, pour être affranchi. Qu'est-ce que tu penses posséder d'important? On parle d'héritage. Beaucoup de gens s'attachent à leurs biens. Beaucoup de gens s'attachent à leur position, à leur notoriété, à leur puissance, à leur savoir. Tout ça là. « C'est important pour vous? Que transmets-tu à tes enfants de fondamental? Il s'agit de ça. Quel héritage transmets-tu à tes enfants de fondamental? Si pour toi, la notoriété est importante, la position sociale est importante, tu vas transmettre ça à tes enfants. Mais ne sois pas étonné demain qu'ils fonctionnent comme ça aussi et qu'ils soient prêts à toutes les compromissions pour avoir une position sociale. Dans le royaume de Dieu, le Seigneur nous dit qu'est-ce que nous choisissons, qu'est-ce qui peut être important pour nous. Discerner. Discerne. Le discernement, c'est une notion qui permet que l'on ait une bonne visibilité. C'est une notion qui permet que l'on ait une vision entière de ce qui nous arrive. On nous dit « observe, analyse auprès de toi, regarde auprès de toi, analyse ta vie, de fond en comble, des parents jusqu'en bas, analyse cela, médite, réfléchis, quête, enquête. » Quelqu'un qui est en Christ et qui ne connaît pas sa généalogie, au moins jusqu'à 3 générations, père et mère, va passer à côté de beaucoup de choses. Enquête, questionne les anciens, les aînés, pour savoir qui était ton grand-père. Quel type de personne il était? Qui était ta grand-mère? Il venait d'où? Quels étaient ses principes? Ça va te donner une clarté sur ce que tu vis. Et par la puissance du Saint-Esprit, quand tu vas dans cette voie de discernement, quand tu commences à quêter pour comprendre ces choses, le Saint-Esprit te guide. Parce que son discernement, il nous amène à discerner le bon et le mauvais. Il nous amène à prendre, à reconnaître la bonne solution. Ce qui est dissimulé, ce qui est caché, on ne peut pas le voir. En cherchant à comprendre, dis, prie que le Saint-Esprit t'aide dans cette quête. Vous savez, on ne nous demande pas d'utiliser nos propres forces. Le Seigneur Jésus a tout payé à la croix et il a prié le Père pour qu'il nous envoie le Saint-Esprit, c'est-à-dire un esprit de sagesse. Nous n'avons qu'à demander son assistance. Parce qu'il a l'expertise de ces choses. Il connaît tout, il sait tout. Donc quand tu commences à quêter, il t'éclaire dans la quête que tu fais. Mais si tu ne cherches pas, comme je disais, on doit se révolter contre un joug. Si tu ne cherches pas à comprendre ce qui arrive à ta vie, si tu ne cherches pas à comprendre pourquoi tu es comme ça, ou pourquoi les choses se passent autour de toi de cette façon, si tu ne quêtes pas, tu n'auras pas la stratégie. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas la vérité dont tu ne seras pas affranchi. C'est une loi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si dans une situation, tu ignores la vérité de cette situation, tu vas rester sous le joug de cette situation. Tu ne seras pas affranchi. Mais si tu cherches la vérité, le Saint-Esprit va te faire découvrir la vérité, ton affranchissement est simple. Parce que quand tu réalises, waouh, c'est donc ça, tu rentres dans la solution. Je prie pour que le Saint-Esprit vous amène à faire la part des choses entre la loi et la grâce. La part des choses entre la grâce et ce qui doit être mis en pratique dans la loi. De découvrir les lois qui sont adaptées à votre situation et de vous donner les stratégies pour les bonnes solutions.